Radio Cité Genève.
Cité Culture. Épiphane Amonfaux.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cité Culture pour cette édition automnale d'Art en Vieille Ville. Je vous emmène à la Galerie Gowen où a lieu l'exposition Making the Landscape jusqu'au 7 décembre prochain, laquelle réunit une vingtaine d'artistes suisses et internationaux qui revisitent le paysage sous un angle contemporain à travers des œuvres mêlant nature, interventions humaines et questionnements environnementaux. L'exposition invite les visiteurs et visiteuses à redécouvrir ce genre artistique en pleine mutation avec des artistes comme Paul Signac, Nicolas Parti et Fatma Shannon qui utilisent divers supports pour explorer des thèmes tels que le changement climatique, les relations entre l'homme et la nature et la quête d'identité dans le paysage. Ce pourrait être une exposition incontournable pour les amateurs et amatrices d'art paysager et de réflexion environnementale. Pour m'accueillir et pour visiter l'exposition, Laura Gowen, la fondatrice et directrice de la galerie qui porte son nom. Reportage. Bonjour Laura Gowen.
Bonjour, merci de me faire l'honneur de votre visite.
Pouvez-vous tout d'abord nous présenter votre galerie ?
Alors, la galerie a été créée en 2009. Elle était au début au quartier des Bains et depuis 2012, elle est en Vieille Ville. Depuis 2021, dans cet espace en particulier, et elle représente des artistes émergents ou confirmés de tout horizon, suisse et étranger, et elle présente en moyenne 5 expositions par année. Elle participe dans des foires internationales et elle a une spécificité, donc une ou deux fois par année, elle présente au public des expositions curatoriales, comme c'est le cas aujourd'hui, donc qui regroupe des artistes représentés par la galerie avec des œuvres qui viennent de collections privées ou qui viennent de collaborations avec d'autres galeries.
Qui sont les artistes alors que vous exposez dans cette exposition?
Alors, déjà, donc l'exposition, elle a un thème particulier. Donc, vous avez cité le titre « Making the Landscape ». C'est une réflexion sur ce genre, le genre du paysage qui a été souvent considéré mineur dans l'histoire de l'art. Après la peinture d'histoire, la peinture religieuse, le portrait, et puis tout en bas de l'échelle, le paysage et la nature morte. Eh bien, par contre, si on regarde bien, le paysage a été le théâtre de grandes révolutions dans l'histoire de l'art. Il suffit de penser aux impressionnistes, aux fauves, ou même au land art. Et encore aujourd'hui, le paysage, je trouve, c'est le terrain d'expérimentation pour les artistes contemporains. Et donc, je me suis demandé aujourd'hui comment les artistes contemporains représentent la nature et expriment par cette représentation des paradigmes culturels d'aujourd'hui. Donc évidemment, je ne prétends pas de donner des réponses, mais juste peut-être plutôt de solliciter, de susciter des questions. Et quand je parle de paysage, donc je ne parle pas seulement du paysage classique, que ce soit de la campagne ou urbain, mais aussi du background. Je ne sais pas comment dire ça en français, c'est le fond. Donc des paysages, comme c'est le cas ici pour cette œuvre importante, enfin de grande taille de Alex Katz, où on voit un portrait d'une jeune femme avec les cheveux blonds et un chapeau en fourrure, mais derrière, on voit un paysage. C'est un paysage d'hiver, d'un pays non déterminé, ça pourrait être un pays du Nord, probablement le Maine, où l'artiste vivait, et on sent presque la brise, comment dire, le vent d'hiver, la froideur de l'atmosphère. Donc ce background derrière, la lumière en particulier, donne toute l'atmosphère, et donc ça permet aux spectateurs de cueillir vraiment cet instinct précis qui était vraiment le but de l'artiste. Voilà. Et donc, concernant les artistes, il y a des artistes confirmés et des œuvres en prêt de collections privées. Donc, comme j'ai déjà dit, Alex Katz, Tursik Emil, Louise Giovanelli, Nicolas Parti, Salvo. Il y a même un Signac. Signac a été un des fondateurs du mouvement divisionniste et pointilliste, et il a été le chef du néo-impressionnisme en 1890. Il a, avec ses théories scientifiques sur la couleur, révolutionné l'histoire de l'art, mais il a aussi ouvert la voie à la génération plus jeune, notamment Matisse. Faut savoir que en 1904-5, Matisse crée ce chef-d'œuvre pointilliste qui est le Calme, luxe et volupté. Et ce sera Polsignac qui l'achètera. Et seulement une année plus tard, en 1905-6, il fera le même sujet, mais traité avec les canons fauves. Donc de nouveau, ces artistes à l'époque jeunes ont expérimenté et trouvé des nouveaux langages.
Donc, nous voyons là justement ce tableau. Est-ce qu'on peut le décrire pour nos auditeurs et auditrices ?
Oui, alors il y a un grand ciel. Donc, il faut savoir que ce tableau, il est fait à quatre mains. Donc, c'est un duo qu'il a créé. Tursik et Mille, justement, sont un couple d'artistes et un couple dans la vie. Et ils ont commencé à collaborer en 2000. Et ils utilisent toutes sortes de sources d'images, de tous sujets confondus qu'ils peuvent trouver sur Internet ou dans les médias. Et après, ils réélaborent ce matériel et le transforment en représentation picturale traditionnelle. C'est une question intéressante qui se pose. Qu'est-ce que c'est finalement la peinture aujourd'hui ? Comment tout ce matériel, il trouve une représentation en peinture ? Et c'est la question, évidemment, n'est pas nouvelle, mais ce qui change aujourd'hui, c'est les sources. Parce que toujours, les artistes se sont inspirés du matériel, de ce qu'ils voyaient autour d'eux ou aux références classiques, de ce qu'ils pouvaient voir. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, ça a vraiment changé.
Pour décrire un peu plus dans le détail ce tableau ?
Oui, alors donc, il y a une partie supérieure qui est un grand ciel. Et j'oserais dire donc justement un ciel plutôt d'hiver. Là aussi, on sent une atmosphère plutôt froide. Et puis la partie inférieure, elle est très dense, donc elle est plutôt dans les tons ocre qui pourraient rappeler des champs ou un paysage de campagne avec une petite maison perdue et isolée dans le fond. Et il y a une peinture très gestuelle qui couvre, donc en fait c'est un peu comme si la peinture de surface était un peu en dialogue, elle se confrontait avec tout le matériel qu'on peut deviner et qui se trouve dessous.
C'est de l'huile sur toile.
C'est de l'huile sur toile, le tableau fait 2 mètres par 2 mètres 50, donc il est assez impressionnant, il amène le regard assez loin avec ses parties abstraites, spontanées sur la partie inférieure et très coloriées. Donc, on peut. Donc, dans cette deuxième salle, il y a les salves avec Nicolas Parti. C'est une salle très lumineuse avec des paysages fantastiques qui font référence à des peintures classiques, mais qui élaborent les éléments du paysage de manière totalement fantastique. Et puis, donc, dans la salle à côté, ici, nous avons. Le Signac qu'on voit avec, qu'on dit en perspective avec cette grande pièce qui se trouve dans la salle du fond, qui est inspirée par des nymphéas. Donc, on voit des correspondances dans la galerie, ce que j'ai voulu justement créer entre des artistes plus historiques et des jeunes artistes. D'ailleurs, j'ai mis en dialogue ce Signac qui est une vue de Paris de 1903. Petit, il fait une trentaine de centimètres, avec le tableau, c'est une juxtaposition qui est assez osée, donc avec un tableau très contemporain d'un artiste coréen qui s'appelle Ken Gun Min, et qui est coréen, qui est né en 1976. Et ce tableau met en scène un sujet cher à l'artiste qui est gay, donc qui représente des scènes qui renvoie à son expérience de membre d'une communauté LGBT à Los Angeles et immigré de Corée de première génération. Ce qui m'intéressait ici, c'était de voir le fond, parce que le fond est traité vraiment avec des références classiques, des fleurs qui pourraient être un peu impressionnistes ou même encore plus classiques, Renaissance ou autre. Et donc, ce tableau exprime un peu un rêve de liberté, revendique une place peut-être pour ces communautés, un rêve de voir, de pouvoir représenter cette identité et de la légitimer dans l'histoire de l'art. Donc, ce tableau, il est dans la plus pure technique de l'artiste. Donc, les couleurs sont décomposées en taches de couleurs plus pures, pour que le spectateur puisse avoir plus cueillir les sujets dans leur ensemble, mais elles sont décomposées pour que la lumière soit représentée plus clairement. D'ailleurs, Signac avait théorisé une théorie un peu de la peinture globale et qui pour lui allait de la croix à travers les impressionnistes jusqu'en néo-impressionniste. Donc c'est vraiment une théorie de la couleur qui se voulait assez scientifique, mais même s'il a revendiqué toujours la prédominance du geste artistique et créatif contre tout dogmatisme.
Continue notre visite.
Oui, effectivement. Alors, ce que je tenais à préciser, c'est que parmi les artistes contemporains, on voit quelques thèmes qui sont assez recurrents. Ce sont cette liberté de se référer à la tradition classique, de la réinventer pour vraiment exprimer leur identité souvent multiculturelle, comme c'est le cas ici de Asif Hock, qui est né en Italie mais d'origine du Bangladesh et émigré aux États-Unis via Brooklyn. Il est jeune, il est né en 1991 et il met en scène son univers complètement fantastique, imaginaire, peuplé de chérubins, de personnages héroïques avec la peau foncée, dans des scènes très dynamiques. Et donc, dans ces tableaux, comme ici, on voit un cheval qui est un peu de facture classique, mythologique, on dirait. Ces personnages, ces mouvements de couleurs et avec beaucoup de doré. Le doré, dans sa culture, représente, c'est un symbole de richesse, d'amour, de spiritualité. Il y a des éléments mélangés qui fusionnent et qui expriment bien l'identité de l'artiste multiculturel. Après, il traite souvent aussi des personnages, par exemple masculins, qui sont musclés mais qui ont en même temps beaucoup de douceur, donc qui contrastent avec les modèles stéréotypés de la masculinité ou de la féminité. Donc ce sont des artistes qui expriment beaucoup de liberté. Et puis ils expérimentent aussi beaucoup. Il y a des artistes qui se fondent carrément, qui fondent leur propre corps dans la nature, comme c'est le cas pour Bruno Gaden.
Et oui, j'allais dire, cette belle œuvre, en fait, que nous avons en face de nous.
Le processus de Bruno est assez complexe parce que son œuvre commence au moment où il planifie ses voyages. Donc, c'est un globe trotter et il se rend vraiment dans des lieux très reculés, au milieu de la jungle. Il y reste pendant quelques mois, des fois, complètement isolé, seul. Il prend des croquis, il se mélange vraiment, il mélange son propre corps à la nature la plus sauvage. Et ensuite, il rentre, il revoit ses photos, ses documents, il se détache de l'aspect documentaire de ses voyages et il peint. Et il manipule la lumière, les images, et il donne cette impression de vraiment vouloir explorer la forêt, la jungle primordiale, l'homme primordial, dans cette lumière qui est assez mystérieuse, un peu dans une scène un peu chamanique.
Et c'est sa silhouette que nous voyons en plein milieu du tableau ?
Voilà, exactement, c'est lui. Ce sont des orthoportraits, mais en même temps, il se charge un peu de cette universalité, de ce mystère qui peut renvoyer à l'homme vraiment universel. Et lui, donc, il se fond, s'immerge dans la jungle. Dans l'autre salle, on a une autre artiste. Elle se immerge dans la mer. Donc, elle fait la même chose. Elle prédilige des lieux vraiment reculés et isolés. Donc, elle s'appelle Amélie Ducommun. Et donc, elle peint l'eau, le mouvement de l'eau dans des grandes peintures expressionnistes, coloriées, mais avec une douceur. On sent presque la musique de l'eau dans ce tableau. Et elle intègre souvent dans sa peinture même l'eau de mer, ainsi que des objets trouvés sur les plages. Et pour elle, elle appelle ses peintures des maps de lieux traversés. Donc il est question d'émotion, de mémoire, de ralentissement par rapport à la vitesse à laquelle nous vivons et nous regardons ce qui est autour de nous, les images, etc. Donc voilà, c'est un mouvement lent.
Et ce tableau que vous avez mis justement en confrontation avec celui de Signac.
Alors là, on a encore de nouveau une autre technique. Il s'agit de Claude Cortinovis, un artiste suisse. Et lui, il travaille de manière presque performative. Il quadrille à la main des feuilles de papier. Ensuite, il crée vraiment comme un vrai peintre d'autrefois avec le système du quadrillage. Donc, il crée son motif, il agrandit, le rend reproductible sur plus grande taille. Là, il s'est inspiré des nymphéas. Il a créé cette œuvre spécifiquement pour l'exposition, comme c'est le cas d'ailleurs d'autres pièces. Et puis, il travaille. Donc, ça, c'est un dessin, c'est une énorme pièce faite en milliers de minuscules carrés coloriés. Avec
des comme couleurs, des pixels.
Des pixels, exactement, dans des couleurs très douces, des roses, des violets, des verts, des jaunes, mais très pastels. Et il remplit à la main toute cette surface de ces minuscules carrés en utilisant des tampons imbibés de couleurs primaires. Donc pour faire les nuances, il repassera plusieurs fois sur les mêmes carreaux et quelquefois il rehausse aussi au crayon. Donc comme il le dit lui-même, je fais lentement ce qui pourrait être fait très rapidement de manière digitale. Donc c'est un travail vraiment gestuel, avec la répétition, le geste, la concentration, presque la méditation. C'est là qu'on trouve la clé, qu'on arrive à comprendre son travail.
Et il est très grand, ce tableau.
Il est très grand, donc il fait 2 mètres par 2 mètres.
Un grand carré.
Oui. Voilà, donc je disais au niveau de l'expérimentation, ce qui est vraiment important à savoir, c'est que les artistes expérimentent. Par exemple, il y en a un qui laisse la toile à l'extérieur pour que les feuilles, la nature laissent leurs traces. C'est Saint Falls, et après il intervient avec sa peinture. Donc la technique n'est pas seulement une tentative de trouver quelque chose de nouveau, mais ça correspond vraiment aux idées. Donc Saint Falls, en faisant ça, il pense au moment, à la mortalité, à la fugacité des choses. Donc quelque chose qui est là. On peut aller voir ce tableau tonal qui se trouve dans la première salle. Donc il y a des traces de feuillage, ce sont des absences de présence. Et donc ces choses qui ne sont plus, vous voyez.
Ah ouais.
Donc, l'idée de travailler à l'extérieur, dans la nature et avec la lumière, évidemment, fait penser aux impressionnistes. Donc il y a cette recherche, mais et dans son cas, cette idée, c'est justement de montrer ce qui ne dure pas, la mortalité, la fugacité des choses, l'intemporalité, et c'est très poétique en même temps. Après, il y a d'autres artistes. Il y a Karine Beauvais qui utilise dans ces paysages fantastiques comme celui-ci, technique qui est complètement originale. Donc, avec l'huile sur toile, elle est peint avec des produits de maquillage. Donc, ce sont des poudres à paupières, des glosses. Et ça aussi, donc il y a une raison pour laquelle elle fait ça. Donc Karine, elle représente la nature de manière très engagée par rapport à des sujets environnementaux. Mais aussi, elle questionne l'identité sexuelle, particulièrement d'une perspective queer. Donc les plantes, les fleurs sont des symboles aussi, quelquefois sexuels et autres. Et donc la féminité s'exprime aussi à travers l'utilisation de ces produits de maquillage. Voilà, après je ferai pas plus long.
Il y a plusieurs artistes, hein, donc c'est une exposition collective dans Making the Landscape. Pourquoi vous avez voulu les exposer en même temps? S'agissait d'un dialogue ou d'une confrontation entre artistes de diverses époques ou entre styles artistiques?
Oui, alors justement, j'ai vraiment choisi des artistes qui ont poussé les limites de ce genre, le paysage, et on réussit à créer des langages uniques ou et utiliser des techniques qui vraiment véhiculent des idées qui sont en ligne avec les thèmes sociétaires d'aujourd'hui.
C'est ce que vous souhaiteriez que les visiteurs et visiteuses retiennent ?
Oui, absolument, oui. Alors après, évidemment, il y a aussi des correspondances formelles, donc les artistes ont beaucoup de préoccupations formelles et ces références aussi à la tradition classique, elles sont là aussi pour les artistes très contemporains, donc ces dialogues sont importants parce que, disons qu'en général, les artistes ont un background et même s'ils ne l'ont pas, ils ont vu des choses, donc ces choses font partie de leur ADN quelque part.
Merci Laura Gouen de m'avoir reçu aujourd'hui dans votre galerie en Vieille Ville dans le cadre de cette édition automnale de Art en Vieille Ville. Je rappelle que Making the Landscape, c'est jusqu'au 7 décembre prochain. Merci également à toutes et à tous et belle suite de journée sur Radio Cité Genève 92.2 FM. Ce reportage ainsi que les autres interviews sont à retrouver sur le site de la radio radiocité.ch et en écoute illimitée. Merci à vous Laura.
Merci beaucoup.